Et là, aujourd'hui, on va revenir eh bien, sur la chronique astro numéro 124 de Michel Favré. Il était dans nos locaux hier avec Corinne Yaya, présidente de AG33, et Serge Gratadour de l'association astronomique Vega de la Lyre. Ils étaient venus nous parler, Michel, de la chronique, des événements dans le cadre de la nuit des étoiles, et notamment Corinne et Serge, leurs activités. Et hier, si vous avez suivi, mais malheureusement, panne d'électricité, on n'a pas pu réaliser notre journal comme il se doit. Donc, on remercie Romain qui a enregistré. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas la même qualité auditive de passer du studio à un enregistreur, mais on va retrouver la chronique de Michel plus les interventions de Corinne et Serge d'ici quelques instants.
En commençant par une visiteuse venue de très loin.
Et une info que j'ai ratée de peu la dernière fois, car elle a été publiée le lendemain de mon passage à l'antenne d'O2 Radio. C'est en effet le 3 juillet que le Minor Planet Center, le centre de référence mondial pour tous les petits corps du système solaire, astéroïdes ou comètes, a annoncé la découverte deux jours plus tôt d'une nouvelle comète, baptisée provisoirement C2025 N1 Atlas, du nom du système de recherche automatique Atlas, dont un des télescopes du réseau, basé au Chili, a détecté la visiteuse. Comme je l'ai déjà dit ici, la découverte d'une petite comète est assez banale, car il n'est pas rare qu'on en détecte plusieurs par semaine. Mais celle-ci a fait beaucoup de bruit, car elle n'a rien d'ordinaire. Après quelques observations pour pouvoir calculer son orbite, il est apparu que sa trajectoire hyperbolique et sa très grande vitesse, plus de 200 000 km/h, soit plus de deux fois celle de la Terre, indique qu'elle provient de l'extérieur du système solaire. C'est donc une visiteuse interstellaire qui a été éjectée de son propre système planétaire de naissance pour venir traverser le nôtre. Cela lui a valu d'être renommée 3I Atlas, I comme interstellaire, groupe dont elle n'est que le troisième membre connu après 1I Oumuamua de 2017, objet intrigant qui a donné lieu à différentes théories, dont celle d'un possible vaisseau extraterrestre par l'astrophysicien américain Avi Loeb. Puis en 2019, la comète 2I Borisov, du nom de son inventeur, c'est comme ça qu'on désigne celui qui trouve un nouvel objet céleste, un astronome amateur criméen. Si jusqu'à maintenant ces objets interstellaires sont très rarement découverts dans notre système solaire, c'est principalement parce qu'ils sont difficiles à détecter, car les spécialistes des petits corps estiment qu'il doit y en avoir dans les 10 000 en permanence à traverser notre monde planétaire. Avec le nouveau télescope américain Vera Rubin, spécialement destiné à la recherche des petits objets circulant dans le système solaire, dont je vous ai parlé la dernière fois, et qui pourrait en découvrir dans les 6 millions en 10 ans, c'est probablement par milliers qu'on comptera ces visiteurs interstellaires dans le futur et qu'on pourra mieux les étudier. Pour ce qui concerne 3I Atlas, sa trajectoire ne le fera presque pas entrer dans le système solaire interne, là où circulent les planètes rocheuses comme la Terre, car son périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil, se situe un peu à l'intérieur de l'orbite de Mars, le 29 octobre, à environ 1,4 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire 1,4 fois la distance Terre-Soleil, ce qui fait dans les 200 millions de kilomètres. Ces dernières semaines, alors qu'elle circulait dans le ciel du côté du Sagittaire, elle était bien trop faible pour être visible directement dans un petit télescope, mais elle pouvait être révélée sur des photographies. C'est ainsi qu'il n'y a aucun doute sur sa nature cométaire, car on peut voir sans difficulté se développer sa queue cométaire, notamment sur une image prise par l'observatoire américain Gemini, publiée sur le site de Ciel et Espace le 17 juillet. En ce début août, son observation est gênée par la clarté lunaire, malheureusement pour les nuits des étoiles. Mais dans la deuxième quinzaine, à partir du 13 août, elle pourrait être de nouveau tentée en photo avec des moyens d'amateur. En septembre-octobre, elle sera trop proche du Soleil, donc masquée par les lueurs du crépuscule, du jour puis de l'aube, et c'est donc seulement en novembre qu'on pourra tenter de la voir, cette fois-ci directement dans l'oculaire, puisqu'une d'une magnitude estimée à 11, ce qui est tout à fait à la portée des télescopes amateurs, le matin, avant l'aube, alors qu'elle traversera la constellation de la Vierge.
Et la découverte d'un ancien volcan sur Mars.
Depuis son atterrissage sur Mars en février 2021, le rover Perseverance arpente le cratère d'impact G0 de 45 km de diamètre, site choisi par la NASA, car ce qui semble être un ancien delta sur l'un de ses flancs laisse penser qu'il était autrefois rempli d'eau. Si le robot a bien montré des roches sédimentaires qui confirment cette hypothèse, il a aussi trouvé des roches volcaniques, notamment révélées par la présence d'olivine, un minéral typique des magmas, et dans des quantités trop importantes pour qu'elles aient pu être amenées sous forme de grains de sable par le vent depuis les lointains volcans connus de la planète rouge. La question était donc, quel volcan pouvait être à l'origine de ces roches à proximité du site ? La réponse semble se trouver dans un article publié dans la prestigieuse revue Nature par l'équipe du professeur James Ray du Georgia Institute of Technology à Atlanta. Selon leur étude, le candidat serait Jezero Mons, ou Mont Jezero, une montagne de 21 km de diamètre et 2000 m de hauteur située au bord du cratère Jezero et facilement visible sur les images prises par les orbiteurs comme MRO, Mars Reconnaissance Orbiteur, ou l'européen Mars Express. C'est principalement en analysant les images infrarouges de ce relief que l'équipe a pu détecter sur ses flancs la présence de pyroxènes, une famille de minéraux courantes dans les roches magmatiques, et déterminer que sa faible inertie thermique, c'est-à-dire sa vitesse de réchauffement ou de refroidissement lors des alternances jour-nuit, correspondrait plutôt à une surface granuleuse comme celle recouverte de cendres volcaniques. De plus, cette montagne présente bien un cratère central et une brèche sur son flanc sud rappelant l'effondrement du mont Sainte-Hélène en 1980. Ce serait donc un volcan assez violent lors de ses éruptions, très différent des grands volcans dômes bien connus de Mars, comme le fameux mont Olympe, au relief relativement faible car résultant de coulées de lave successives sur de vastes surfaces. Malheureusement, Perseverance ne peut pas aller l'étudier de plus près car il est complètement à l'opposé vers le delta du cratère G0 qui est son principal sujet d'étude, donc à une cinquantaine de kilomètres. Néanmoins, cette étude vient confirmer le choix de ce site pour la recherche d'une éventuelle vie martienne, car si les eaux de l'ancien lac du cratère G0 ont pu être réchauffées par des écoulements magmatiques en sous-sol, révélés par ce volcan, ce serait un facteur positif pour la présence de vie dans le passé.
Déjà 3 ans que le JWST observe l'univers dans l'infrarouge.
En effet, c'est en juillet 2022 qu'a été publiée la première image du télescope spatial James Webb au miroir de 6,50 m et spécialement conçu pour observer dans l'infrarouge. Pour fêter cet anniversaire, les astronomes ont réalisé une très belle image de la nébuleuse NGC 6334, située à environ 4000 années-lumière de nous, dans la région du Scorpion, et surnommée la patte de chat, en raison de sa forme rappelant les coussinets du petit félin. Elle a été publiée le 10 juillet par la NASA, où on peut facilement la trouver, ainsi que sur le site de Ciel et Espace. Prise le 24 septembre dernier avec l'instrument NIRCAM du JWST et différents filtres, rendus en fausse couleur comme pour toutes les images du JWST, cette photographie révèle des structures très fines de cette région de formation de nouvelles étoiles, notamment dans la zone surnommée Opéra par l'équipe en raison de sa forme arrondie, l'une des sous-structures visibles dans l'un des coussinets de la nébuleuse visée par le JWST. À l'occasion de cet anniversaire, on pourrait faire un récapitulatif des principales découvertes permises par ce puissant télescope spatial, mais ce serait trop long pour aujourd'hui et je le ferai peut-être la prochaine fois. Afin de laisser assez de temps à nos invités pour parler des Nuits des Étoiles, je me limiterai juste à évoquer l'une des plus récentes, remontant au mois de mai dernier, et correspondant exactement au type de recherche pour lesquelles le JWST a été conçu, observé très loin dans le passé de l'univers. De son petit nom, MUM-Z14, c'est la galaxie la plus lointaine, donc la plus ancienne jamais observée à ce jour, car elle aurait dans les 13,5 milliards d'années. Donc on l'observerait seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Comme d'autres observations précédentes du JWST, cela confirme la présence de galaxies très tôt dans l'histoire de l'univers, plus tôt que ce que le modèle prévoyait, ce qui oblige à revoir nos théories. L'étude de son spectre montre qu'à cette époque, elle était en pleine période de formation d'étoiles, probablement des étoiles supermassives de plusieurs milliers de masses solaires, comme le prévoit la théorie pour l'univers primitif, où la grande densité de gaz permettait leur formation, ce qui ne serait plus possible aujourd'hui. MUM-Z14 est aussi l'objet le plus lointain jamais observé, à environ 34 milliards d'années-lumière de nous. En entendant ce nombre, les auditeurs peuvent s'étonner, car comme l'univers serait âgé d'environ 13,8 milliards d'années, selon le modèle du Big Bang, aucun objet ne devrait être observable à plus de 13,8 milliards d'années-lumière de nous, puisque le temps que la lumière nous en parvienne ne peut excéder l'âge de l'univers. C'est compté sans l'expansion de l'univers, qui fait que les objets continuent à s'éloigner de nous après que la lumière en soit partie pour nous atteindre, et se trouvent aujourd'hui au-delà de cet horizon temporel. Pour le comprendre, on peut s'essayer à une analogie. Imaginons que nous soyons sur la côte en train d'observer un bateau lointain. Une annexe rapide en est partie dans notre direction, disons à 25 km/h. Je ne suis pas familier des milles nautiques et des nœuds. Pour compléter les données, disons que le gros bateau est à environ 20 km, tout près de l'horizon depuis notre point d'observation sur la côte, et que les navires sont poussés par un courant d'environ 5 km/h qui les éloigne de nous. La navette mettra donc une heure à nous rejoindre, car elle parcourt 20 km à 25 km/h moins les 5 km/h du courant qui ralentit sa progression. Et quand elle arrive, le gros bateau poussé par le courant sera à 25 km. Donc on ne pourra plus le voir, car il aura disparu derrière l'horizon pour nous, et on pourrait se demander d'où provient l'annexe. Pour notre lointaine galaxie, le raisonnement est le même. Sa lumière nous arrive après avoir voyagé pendant environ 13,5 milliards d'années, mais pendant tout ce temps, l'expansion de l'univers l'a énormément éloignée, la plaçant à une distance bien au-delà de l'horizon théorique des 13,8 milliards d'années-lumière.
Et après ces infos d'astronomie, un petit point des missions spatiales.
Pour une fois, l'actualité astronautique a été assez calme ces dernières semaines. Sans doute parce qu'Elon Musk n'a pas tiré un nouveau feu d'artifice spatial, c'est-à-dire le Starship, sans doute en raison des dommages causés à la base de lancement de Boca Chica au Texas par son explosion au sol le 18 juin dernier. On prévoit que son prochain vol pourrait intervenir début août, en tout cas après le 4, puisqu'il n'apparaît pas encore dans le planning officiel des lancements sur le site de SpaceX qui va jusqu'à cette date. Dans le domaine des fusées réutilisables, la surprise est venue du japonais Honda, qui a réussi le 17 juin dernier un premier essai d'un démonstrateur de seulement 6,30 m et environ 1,3 tonne au décollage, depuis le centre spatial de Teiki, que la société développe depuis plusieurs années en collaboration avec la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Le vol a duré un peu moins de 1 minute et l'engin n'est monté qu'à 271 mètres. Mais il est revenu se poser en douceur comme prévu, avec une très grande précision, car à seulement une quarantaine de centimètres de l'objectif visé. Propulsée par un moteur à carburant liquide, cette fusée est à concentrer des savoir-faire accumulés par Honda dans la robotique, le contrôle embarqué et les véhicules autonomes. L'entreprise précise s'appuyer sur des briques techniques issues de son département de recherche et développement automobile, algorithmes de stabilisation, capteurs inertiels, redondance logicielle, etc. Autant d'éléments déjà prouvés sur route, désormais transposés en vol vertical. Si elle reste discrète sur la suite de son programme spatial, la prochaine étape visée serait un vol suborbital d'ici 2029, c'est-à-dire franchir les 100 km d'altitude. À côté du lanceur lourd Ariane 6, l'ESA, l'agence spatiale européenne, exploite aussi un lanceur plus petit, Vega C, haut de 36 mètres, à comparer aux 63 mètres d'Ariane, et avec une masse de 430 tonnes au décollage, cette fusée peut propulser 3,3 tonnes de charge utile en orbite basse. C'est ce qourelle a fait vendredi dernier depuis la base de Kourou en Guyane, en transportant 4 satellites militaires CO3D pour Airbus Defence and Space, et le satellite Microcarb pour le CNES, le Centre National des Études Spatiales. Les CO3D ont été placés sur une orbite polaire héliosynchrone à 495 km d'altitude, d'où ils réaliseront une cartographie de la Terre en 3D à haute résolution, répondant aux besoins de cartographie précise et actualisée des forces armées. Cela n'empêchera pas l'exploitation des données à des fins civiles, par exemple dans les domaines de l'hydrologie, la géologie, la sécurité civile, l'urbanisme, la gestion des terres et des ressources. Microcarb a été placé sur une autre orbite polaire à 650 km d'altitude, illustrant la capacité de l'opérateur Ariane Espace à réaliser des missions complexes. Il est destiné à cartographier les sources et les puits, comme on dit, de dioxyde de carbone, CO2, bien entendu dans le cadre de l'étude de l'effet de serre et du réchauffement climatique.
Et pour finir, un petit coup de gueule.
Alors effectivement, pour parler des misères que les politiques sont en train de faire au Palais de la Découverte. Ce lieu unique au monde de vulgarisation scientifique existait à Paris depuis 1937, installé dans le cadre de l'exposition universelle et a accueilli au total plus de 90 millions de visiteurs. Regroupé avec la Cité des sciences et de l'industrie en 2010 dans le cadre d'Univers Sciences, il se distinguait de sa cousine par les nombreuses démonstrations vivantes assurées par des médiateurs en contact direct avec le public, là où la structure plus moderne adopte une muséographie plutôt orientée écran et presse-bouton. Même si j'apprécie aussi la CSI et son planétarium numérique, l'un des plus grands de France, j'avais un petit faible pour le Palais de la Découverte, un musée unique au monde, et son planétarium optique qui projetait le plus beau ciel artificiel que j'ai jamais vu. J'en parle au passé car il a fermé ses portes en 2020 dans le cadre global de la rénovation du Grand Palais où il était installé. Les travaux terminés, Sa réouverture était prévue cette année, sauf qu'un imprévu est intervenu en la personne de notre nouvelle ministre de la Culture, dont tout le monde connaît le nom et le goût pour la mode et le luxe, plus que pour les sciences. Non contente de candidater au poste de députée de la 2e circonscription de Paris, puis à la mairie de la capitale l'an prochain, elle remet en cause la réouverture du palais, en estimant qu'il serait préférable de libérer les locaux pour le Grand Palais, notamment pour pouvoir y accueillir plus d'expositions de marques de luxe et autres défilés de mode. Avec sa collègue de la recherche, elle a eu le 12 juin la tête de Bruno Macquart, président d'Univers Sciences, qui avait eu le malheur d'annoncer que le célèbre planétarium et les nombreuses animations scientifiques allaient être réinstallées. Depuis, c'est le flou total concernant l'éventuelle réouverture du palais, ce qui a conduit son personnel à manifester le 8 juillet devant l'Académie des sciences à Paris, car ils craignent qu'une décision soit prise en plein mois d'août, pendant que les Français ont plus la tête aux vacances qu'à la culture scientifique, même s'ils ont déjà été 120 000 à signer la pétition en ligne pour la défense du palais, que j'invite tous nos éditeurs à aller signer. De plus, la CSI bâtie dans les années 80 et qui doit être à son tour rénovée est également remise en question par les mêmes ministres. Avec le déplorable exemple de l'administration Trump aux USA, qui livre une véritable guerre à la recherche, à la science et aux universités, on peut se demander si la France n'est pas en train de suivre le même chemin en sacrifiant ses lieux de diffusion de la connaissance scientifique au profit d'activités plus futiles. Deuxième partie, le ciel du mois. Puisque nous avons des invités pour parler des Nuits des Étoiles, je traite exceptionnellement cette rubrique avant et non à la fin de la chronique comme nous en avons l'habitude. Comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » de la section astronomie de notre site web www.constellationsetgalaxies.org pour voir les cartes du ciel, difficile de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour août d'ici la fin de la semaine. Même si les jours ont commencé à raccourcir depuis le solstice d'été du 21 juin, nous sommes toujours dans une période moins favorable pour les observateurs du ciel nocturne, avec un soleil qui se couche en ce moment vers 21h30 et la nuit qui n'arrive que vers 22h45, et même presque 23h30 si on attend un ciel bien noir. Fin août, ce sera pratiquement une heure plus tôt, avec le coucher vers 20h30 et la nuit vers 21h45. Pour le week-end des Nuits des Étoiles, la nuit n'arrivera que vers 22h40, mais heureusement pour les organisateurs d'observation nocturne, pour patienter pendant le crépuscule, il y aura côté sud un grand quartier de lune le vendredi, puis une grosse lune gibbeuse les soirs suivants. Et on pourra commencer les soirées par un coup d'œil au relief lunaire, cratères et montagnes. Malheureusement, cette générosité céleste du début de soirée se perdra un peu plus tard, avec une clarté lunaire un peu gênante pour admirer les objets plus faibles comme les nébuleuses et les galaxies. La Lune ayant la mauvaise idée de se coucher assez tard, vers minuit et demi le vendredi et vers 1h du matin les nuits suivantes. Il n'y aura pas de planète brillante dans le ciel avant le lever de Saturne vers 23h30, mais je pense observable seulement après 1h du matin. En cette fin juillet, comme nous sommes en été depuis environ un mois, au début de nuit, ce sont les constellations typiques de cette saison qui occupent la plus grande partie du ciel, même si quelques-unes du ciel de printemps sont encore visibles vers l'ouest, comme le lion en train de se coucher, le bouvier et la vierge, qu'on peut situer avec leurs étoiles les plus brillantes qu'on trouve en prolongeant l'arc de la queue de la casserole, la partie la plus brillante de la grande ours. D'abord Arcturus du bouvier, puis Spica de la vierge. Au sud-est, on voit apparaître dès le crépuscule les trois étoiles brillantes qui forment le triangle de l'été. Vega, la plus haute, Deneb, la plus à l'est, et Altaïr, la plus basse, permettant de situer leurs constellations respectives de la lyre, du cygne et de l'aigle. Si le ciel est assez noir, on pourra distinguer le long du cygne et de l'aigle le ruban laiteux de la Voie lactée, incliné à peu près à 45 degrés et qui nous conduit vers le sud à deux autres constellations bien reconnaissables, du Sagittaire et du Scorpion. À l'est, ce sont des constellations de l'automne qui se lèvent, notamment Pégase, bien reconnaissable à son grand carré, et dans le prolongement Andromède, dans laquelle on peut distinguer l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, la grande galaxie M31, que les astronomes ne manqueront pas de vous montrer au télescope durant les Nuits des Étoiles, tant elle est grande et lumineuse. Ce sera un peu une exception, car le ciel d'été est surtout favorable à l'observation d'amas d'étoiles et de nébuleuses, c'est-à-dire d'immenses nuages de gaz, qui peuplent la Voie lactée, notre galaxie, tellement présente dans le ciel d'été qu'elle limite la profondeur de notre regard pour atteindre des objets plus lointains comme les autres galaxies. À la fin du mois d'août, avec la nuit qui survient plus tôt, la situation sera analogue en début de nuit, Sauf que le lion sera déjà couché et la Vierge pas loin de l'être. Les constellations d'été, le fameux triangle plus haut dans le ciel, avec la brillante Vega presque au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête, et les constellations d'automne plus hautes à l'est. Côté planète, comme je l'ai dit à propos des nuits des étoiles, nous ne sommes pas gâtés le soir, car Saturne a beau se lever en début de nuit, il n'est guère observable dans de bonnes conditions que bien après minuit. On pourra alors admirer ses anneaux au télescope, car je rappelle qu'ils ne sont pas visibles dans une simple paire de jumelles, sauf qu'actuellement, ils se présentent très fermés, c'est-à-dire presque de profil, comme tous les 15 ans environ. Il faut ensuite patienter jusqu'à presque 4 heures du matin pour voir apparaître Vénus, puis Jupiter environ une heure plus tard, ces deux planètes très brillantes restant visibles très longtemps dans les lueurs de l'aube. Fin août, les planètes géantes se lèveront nettement plus tôt, Saturne vers 21h30, qui sera rentré dans une période favorable de son observation en début de nuit, et Jupiter vers 3 heures du matin, alors que Vénus, se rapprochant progressivement du Soleil, arrivera bien plus tard vers 4h30. Cela veut dire que dans le mois, elle aura croisé Jupiter dans le ciel, et ce sera le matin du 12 août où elles seront écartées de moins de 1 degré, c'est-à-dire moins que la largeur d'un doigt bras tendu. Si on peut les observer jour après jour autour de cette date, on pourra constater leur mouvement relatif sur le fond de ciel étoilé. Comme chaque mois, la Lune s'invitera près de ses planètes en produisant des conjonctions, dont la première sera, par pure coïncidence, justement le soir du mardi 12 août, après que Vénus et Jupiter se seront croisés le matin, où le soir, la Lune gibbeuse se lèvera avec Saturne, puis le mercredi 20 août, où un fin croissant accompagnera Jupiter et Vénus dans le ciel du matin, avant de se placer entre Vénus et Mercure le lendemain matin, jeudi 21 août. Et une autre curiosité à voir dans le ciel pour les nuits des étoiles, qui s'appelait d'ailleurs « Nuit des étoiles filantes à leur création », les fameuses étoiles filantes Perséides, toujours visibles en été de la mi-juillet à la mi-août, avec un maximum d'activité prévu le 12 août, donc une dizaine de jours après les nuits des étoiles, où elles devraient déjà être nombreuses à zébrer le ciel pendant les soirées d'observation. Le thème du mois, les nuits des étoiles 2025. Tout le monde connaît probablement cette manifestation nationale très populaire qui existe depuis 1991 à l'initiative de l'AFA, l'Association française d'astronomie, fédération regroupant la plupart des clubs d'astronomie en France. Les plus anciens se souviennent peut-être des premières éditions qui donnaient lieu à toute une soirée d'astronomie sur Antenne 2 à l'époque, avec des interventions prestigieuses comme par exemple Hubert Reeves. Cette période dorée est bien révolue puisque France Télévisions a cessé son partenariat en 2003. Et même Arte, qui diffusait ces dernières années des documentaires sur le thème de l'espace lors d'une journée spéciale dédiée aux Nuits des Étoiles, semble aussi avoir oublié ce rendez-vous en 2025. Cette année, pour la 35e édition, le thème choisi par l'AFA est « Les océans du ciel », ce qui leur vaut le label « La mer en commun » dans le cadre de l'Année de la mer, initiative nationale portée par le ministère de la Transition écologique. Et je suppose, pour grappiller quelques subventions, car si ce thème est intéressant pour tous ceux que passionne la recherche de l'eau dans l'univers, donc de la vie aussi, du point de vue des observations possibles, il tombe à côté pour le ciel du début août, car aucune des planètes ou des satellites riches en eau de notre système solaire ne sont visibles en début de nuit, et il faudra attendre bien 1h du matin pour pointer Saturne et apercevoir son satellite Encelade, possédant un océan subglaciaire, mais visible juste comme un petit point brillant dans les télescopes. Bien entendu, les organisateurs de manifestations sont libres de parler de ce sujet ou d'autres selon leur choix. Les Nuits des Étoiles sont programmées du vendredi 1er au dimanche 3 août, donc ce week-end, et pour donner une idée de l'importance de cette opération nationale, on peut rappeler qu'en 2024, les 612 manifestations en France ont attiré 187 000 participants selon les organisateurs, ce qui est un record. Et pour cette année, ce sont plus de 500 manifestations qui sont prévues sur toute la France, organisé par 350 clubs, associations ou collectivités territoriales. Pour avoir le détail des manifestations, les dates et les lieux, le mieux est de consulter le site en ligne de l'AFA, www.afaastronomie.fr, où la page dédiée à l'opération propose une carte indiquant les animations qui auront lieu partout dans l'Hexagone, sur laquelle on peut zoomer ou filtrer selon différents critères, par exemple le département. Pour ce qui concerne la Gironde et surtout la région bordelaise, nous allons en parler maintenant plus en détail avec nos invités.
Je suis Serge Grattado, je suis le trésorier de l'association astronomique Vega de la Lyre, qui est située entre Bordeaux et Libourne, la commune de Vert. Alors ce samedi 2 août 2025, l'association astronomique Vega de la Lyre, qui est située à l'observatoire de Vert, à côté de Libourne, vous propose une journée complète d'astronomie. Cela va commencer à partir de 15h, donc samedi 2 août, par une observation du soleil en toute sécurité. Même les très jeunes enfants vont pouvoir regarder le soleil en toute sécurité, avec des filaments qui peuvent sortir, des protubérances, des taches solaires, suivant l'activité solaire du moment. En même temps, Nina va faire une activité pour faire découvrir aux jeunes enfants, aux très jeunes enfants et jusqu'aux ados, des notions élémentaires du système solaire. Les planètes, à peu près les distances, comment ça fonctionne un petit peu. Voilà. Alors les tout petits pourront faire des dessins, des gommettes, mais les plus grands aussi vont pouvoir avoir accès à des notions qui, même aux adultes parfois, ne sont pas inutiles. Après, nous sommes là aussi pour montrer les matériels d'astronomie qui nous permettent d'observer le ciel en tant qu'amateur, bien sûr. À la même occasion, pendant l'après-midi, il y aura une buvette qui sera ouverte avec de quoi se restaurer, avec des sandwichs, des hot dogs, tout ce qu'il faut pour tenir le coup, le café. Et à la nuit tombée, nous allons pouvoir observer le ciel du moment, c'est-à-dire les étoiles, les constellations à l'œil nu, avec juste un laser guide vert qui permet de guider, de bien montrer quels sont les dessins, on appelle ça des astérismes, dessinés par les étoiles. Ça, c'est purement à l'œil nu, sans aucun télescope. Les différentes constellations, comme les plus connues, il y a la Grande Ourse, la Petite Ourse, la constellation de Cassiopée, la Couronne Boréale, le Bouvier, et plein d'autres qui sont très intéressantes à voir, que l'on voit soit toute l'année, soit qu'à certains moments de l'année. Et au ciel, la nuit tombée, nous pourrons observer les étoiles dans nos télescopes qui seront sur le pré, environ 7 à 8 télescopes sur le pré, sans compter celui qui est dans la coupole, qui sera aussi accessible. Donc c'est un gros télescope de 355 mm, dans une coupole astronomique de l'observatoire. Et tout cela, vous pouvez accéder la coupole observatoire, aussi bien sur le pré, à l'œil nu, tout ça est au même endroit, c'est à côté de la buvette. C'est une grande fête de l'astronomie pour tout le monde, sans aucune connaissance. Depuis 3 ans jusqu'à 103 ans, tout le monde peut venir en famille, avec les amis, et les télescopes sont accessibles à tout le monde. Alors la météo, forcément, on y est contraint, même s'il y a un petit peu de nuages, ce n'est pas grave, parce que quand on va vous montrer le ciel, certains types d'étoiles qui sont colorées ou doubles, ou certains astérismes, ils existent aussi de l'autre côté du ciel, où il n'y a pas de nuages. Donc il ne faut pas attendre que le ciel soit totalement clair. Quelques nuages épars, ce n'est pas du tout un souci. Et aussi, on peut vous parler d'astronomie, de matériel, de l'avis de l'association, puisque nous sommes une association qui comprend entre 40 et 80 membres. Le but, c'est partager ce que l'on sait. Pour ceux qui en ont envie, c'est apprendre à installer et utiliser un télescope, même celui de l'association. Voilà, on fait des formations. Tout le monde peut y arriver, voilà, entre 12 ans et 100 ans, tout le monde peut faire les choses. Ça se passe entre nous, dans l'observatoire. Voilà. Donc c'est vraiment accessible au grand public, petits et grands, jeunes et vieux. Tout le monde peut venir. Alors déjà, nous, ce qu'on aime regarder, le côté astronomique, on est axé sur la beauté, ce qu'on en a envie, le rêve. On n'est pas branché recherche scientifique. Voilà. Par contre, si une étoile est bleue, jaune ou rouge, on peut expliquer un petit peu quand même, mettre un petit peu de physique pour expliquer quels sont les différents phénomènes possibles qui sont à l'œuvre. Voilà. Mais ça dépend de l'intérêt des gens. Quand on discute ensemble, si les gens nous posent des questions, mais on peut rentrer dans ce domaine-là. Et surtout, si ça nous permet de voir que on peut se poser des questions un petit peu existentielles, on peut rêver, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, on peut amener quelques éléments qui permettent de réfléchir un petit peu plus. Voilà. Et surtout, c'est beau, c'est du rêve, c'est du partage en famille aussi. Donc c'est très transgénérationnel. Hein. Depuis les tout petits enfants jusqu'aux grands-parents, tout le monde peut partager la même chose, voit la même chose. Des très jeunes enfants, on remarque souvent qu'ils en connaissent beaucoup plus que leurs parents ou leurs grands-parents dans le domaine. Des fois, ils se raccrochent à ce qu'ils ont vu à l'école, ce qu'ils ont appris, voilà, ou ce qu'ils vont apprendre, voilà, dans tous les cas. Donc nous, c'est partager, c'est voir des belles choses qui sont accessibles, qu'on n'imagine pas. On peut voir des galaxies, on a des galaxies que l'on peut voir. Donc ça fait un petit peu rêver de savoir que elles sont inaccessibles en voyage, on ne peut pas y aller. Ça, c'est technologiquement, on n'en est pas du tout là. Mais les regarder, on peut voir aussi les étoiles filantes. Donc allongées sur le pré, vous pouvez amener, n'hésitez pas à amener une couverture ou une petite natte, parce que quand on est allongé, on peut regarder plus longtemps, on a pas mal au cou, Et voilà, donc on peut regarder les étoiles filantes, bien sûr faire les vœux, c'est le plus important, hein, on est d'accord. Ça marche très très bien faire les vœux. Voilà, donc on peut regarder le ciel le nu, voir plein d'étoiles filantes. On vous explique de quel côté il vaut mieux regarder, parce que si on regarde au hasard dans le ciel, on a beaucoup moins de chances de trouver d'étoiles filantes. Si on sait dans quel cadran, d'où elles viennent, c'est beaucoup plus sûr. Voilà. Il faut regarder dans la constellation de Persée. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle étoiles filantes, en début, les Perséides. Ça vient du mot la constellation de Persée. Donc pour les gens en dehors de la nuit des étoiles, nous sommes ouverts tous les samedis soirs de 21h à minuit, toute l'année, quelle que soit la météo, même quand il pleut. Après, on parle aussi astronomie, on échange sur documents, avec le matériel, toute l'année, et c'est accessible. Donc en nommant, on met à tous les visiteurs, faites Vega de la Lyre, Vers, V-A-Y-R-E-S, c'est la commune, et toute l'année, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre pour voir ou apprendre. C'est comme vous.
Bonjour, Corinne Yaya pour Astronomie Gironde 33. Je suis animatrice, présidente aussi de l'association. Et je viens vous parler donc de nos nuits des étoiles, c'est-à-dire les animations à laquelle nous allons participer. D'abord, le week-end prochain, bien sûr, nous allons participer aux côtés de partenaires vendredi 1er août, aux côtés de Cap Science, de l'AEPIC et de la Société Astronomique de Bordeaux. Nous allons donc nous observer, sortir des instruments d'optique sur l'esplanade des Libertés à Florac. Le lendemain, nous allons à Saint-Vivien-de-Blaye, qui est donc une soirée organisée par la mairie de Saint-Vivien-de-Blaye, mais également par Latitude Nord Gironde, où là aussi, nous allons non seulement déployer des instruments d'optique, télescopes, lunettes, etc., mais j'y donnerai également une conférence sur comment débuter en astronomie et en astrophotographie. Enfin, je ferai également un planétarium à ciel ouvert si le ciel s'y prête. Dimanche, nous serons à l'écomusée de Marquèze à Sabre. Là, c'est sur réservation, hein, car même si c'est gratuit, il y a quand même le petit train à prendre. Donc, 21h minuit à l'écomusée à Sabre. Puis, il faudra attendre 15 jours. On va laisser passer la pleine lune pour nous retrouver le 15 août, vendredi 15 août, à Socats. Où là, ce sera nous qui organisons, donc Astronomie Gironde 33, notre propre nuit des étoiles au mémorial de la ferme de Richemont à Socats. Et là, vous retrouverez les instruments d'optique autour du monument, également des conférences, une exposition d'astrophotographie, etc. Et puis le ciel, bien sûr, moins pollué de Socats. Le lendemain, nous serons à Fargues-Saint-Hilaire, au domaine de la Fraise, qui est maintenant commencé à être connu, hein, c'est l'UFCV qui organise, et nous assurerons le pôle observation, toujours avec les télescopes. Pour finir ces nuits des étoiles, nous irons au château de Villandreau, dans l'enceinte des ruines, où nous pourrons également sortir les télescopes et faire des conférences, voilà, tout ça bien sûr gratuitement, en accès libre, pour Sabre, hein, pour l'écomusée. Mais toutes les autres, il n'y a pas besoin de réserver. Vous venez et vous profitez de la soirée. Bien sûr, toutes ces nuits étoiles sont dépendantes de la météo. En ce qui concerne le week-end prochain, c'est bon, il va faire beau. Pour les autres, renseignez-vous auprès de la météo. Elles seront annulées en cas d'intempérie, évidemment. Et pour finir, pour plus de renseignements sur ces diverses soirées, vous pouvez aller visiter notre site internet www.ag33.fr.
Pour ce qui concerne la SAB, Société Astronomique de Bordeaux, elle participera à la soirée d'observation organisée par Cap Science et AG33 le vendredi 1er août de 20h à minuit à Côté Science à Florac. Pour ce qui concerne JAL Astronomie, qui n'a pas pu être présenté non plus aujourd'hui à l'antenne, ils proposeront au public d'observer le ciel à Saint-Médard-en-Jal le vendredi 1er à partir de 21h sur le site du stand de tir à l'arc de Gajac, chemin de la Cantelaude. Le lendemain, samedi 2, ils seront à Martignas-en-Jal, à leur observatoire, situé au Parc des Sports et Loisirs Colette-Besson, dès 14h pour l'observation du soleil et des ateliers destinés aux enfants. L'observation du ciel nocturne commencera à 21h. Et ils remettront ça le dimanche 3, car ils font la totale des dates prévues par l'AFA, à l'écosite du Bourgail, à Pessac, à partir de 17h pour les animations enfants et l'observation du soleil, puis le soir à partir de 21h pour les observations du ciel et un film « Constellations et mythologies » à 22h. En dehors de ces clubs d'astronomie que nous invitons habituellement à venir parler de leurs animations à l'antenne d'O2 Radio, je suis allé consulter les autres manifestations Nuit des étoiles inscrites sur la carte de l'AFA Et j'ai vu qu'il y en avait une autre à la Maison de la Nature de Gradignan, le vendredi 1er à partir de 21h30, et au Jardin de l'Art, ou de l'Ars, je ne sais pas, à Bordeaux, le vendredi 1er à partir de 21h, proposé par Jeunes Sciences Bordeaux. Et plus loin de l'agglomération bordelaise, pour ceux qui seraient partis en bord de mer ce week-end, plusieurs animations près du bassin d'Arcachon. Au nord du bassin avec le club astronomie Bételgeuse, le vendredi 1er à partir de 22h à Andernos-les-Bains, le samedi 2 à Lèche-Cap-Ferret et le dimanche 3 à Arès. Au sud du bassin, avec le club d'astronomie Cap-Sud, le vendredi 1er à partir de 22h à la Teste de Bûche, au site des Archers du bassin, puis le dimanche 3 au départ de la piste cyclable de Petit-Nice, précédé le matin par une observation du soleil entre 10h30 et midi à la mairie annexe du Pilat-sur-Mer. On trouvera plus d'informations sur le site de l'AFA et sur les sites de chacun de ces clubs. Notre prochaine chronique est prévue le mercredi 27 août et nous y ferons sans doute un premier bilan des Nuits des Étoiles et parlerons de l'éclipse totale de Lune du 7 septembre.
Voilà, merci Michel Favret pour cette 124e chronique astro. Corinne Aya, présidente d'AG33, et Serge Gratadour, voilà l'association, quant à lui, astronomique Vega de la Lyre, à l'Observatoire de Verre. Voilà, on leur fait un petit coucou amical à tous les trois, hein, car hier, voilà, malheureusement, une panne de courant nous a pénalisés, et du coup, ben, pour rattraper le coup, justement, voilà, ça rime. Façon de parler, eh bien, on a fait des enregistrements, voilà, au Tasca. Mais je remercie également Romain qui est étudiant en école de journalisme à l'UFJ, stagiaire à nos côtés, qui a réalisé ses prises de son. Donc là, c'est pas la même qualité que le studio, mais il a fallu s'adapter. Donc vraiment, merci à eux.